Matin première.
Élodie de Sélis et Xavier Van Bugenhout.
Il faut être plusieurs pour commettre un crime comme celui qui se déroule sous nos yeux et encore plus nombreux pour l'empêcher. L'histoire sur laquelle on revient ce matin est celle de l'incroyable sauvetage collectif de 108 enfants juifs internés au camp de Vénissieux dans la région de Lyon. Ça s'est passé dans la nuit du 28 au 29 août 1942 et cela a nécessité la coordination d'un médecin, de membres d'œuvres sociales, d'hommes d'église, mais aussi l'acceptation des parents d'abandonner leurs enfants pour les sauver. C'est un récit vrai, bouleversant, tiré du livre de l'historienne Valérie Porteret, sorti en 2020, mais porté aujourd'hui en bande dessinée avec les dessins d'Olivier Ballet. Ça s'appelle « Vous n'aurez pas les enfants ». Arnaud Le Guéflec en est le scénariste. Il est notre invité ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Arnaud Le Guéflec, vous êtes romancier, scénariste de bande dessinée, donc vous êtes également musicien. On va peut-être rappeler le contexte hein, de cette histoire. On est quelques semaines après la rafle du Veldiv à Paris. On est dans un gouvernement de collaboration, celui de Vichy. Dans votre bande dessinée, ce qui est particulier, c'est qu'on va pas voir les nazis, en fait, on va voir les Français. On va voir le chef du gouvernement, la police, ceux qui vont mettre en application toutes ces dispositions, toutes ces lois d'internement de la population juive de France. C'était ça qui peut-être vous a intéressé dans cette histoire, c'est l'aspect collaboration.
C'est-à-dire qu'on est en zone libre, donc c'est l'œuvre de Vichy, et c'est aussi ce qui est assez terrifiant dans cette affaire, c'est le zèle dont a fait preuve le gouvernement Laval, qui a proposé spontanément de livrer les enfants, alors que
les nazis ne demandaient pas.
Les SS ne le demandaient pas, pour le moment en tout cas, et donc on a évidemment une histoire d'autant plus tragique que c'est la police française qui est à l'œuvre, et le gouvernement de Vichy, oui.
Et à ce propos, j'ai une petite incise sur les premières pages hein, où il y a un interrogatoire de Pierre Laval, donc qui était le chef du gouvernement entre 42 et 44. Hein, et effectivement, il a accepté de livrer 32 000 juifs aux nazis et spontanément, effectivement, de livrer les enfants. Et dans l'interrogatoire, il dit par souci d'humanité.
Oui, c'était les arguments qu'il avait avancés à l'époque, hein, pour ne pas séparer les enfants des parents pour des questions humanitaires, ce qui est bon, évidemment le fond de l'abjection.
Ouais. Alors vous le dites, on est en zone libre à ce moment-là, dans la région de Lyon, et les gens ont entendu parler de la rafle du Veldiv, mais pourtant, et à un moment donné, vous précisez, ça paraît tellement inconcevable que les gens ne peuvent pas y croire, c'est même pas qu'ils ne veulent pas forcément y croire, la population, mais ils ne peuvent pas y croire.
C'est le problème de ce type de crime qui est inconcevable, qui est trop énorme pour qu'on puisse l'appréhender comme ça, avec ce qu'on a déjà connu. Donc il y a quelque chose d'inédit, il y a une monstruosité inédite. Et donc oui, les gens pensent quand même qu'ils sont en sécurité, ils sont en zone libre. Donc c'est le gouvernement de Vichy qui va livrer 10 000 juifs étrangers de la zone libre. Et on est juste après, effectivement, la rafle du Veldiv, mais les gens sont sonnés, ils n'ont pas forcément conscience ou n'arrivent pas à appréhender mentalement l'énormité du crime.
Ouais. Mais c'est quand même le point de bascule, le fait de demander les enfants, c'est quand même le point de bascule qui va éveiller les consciences chez certains. On va voir, ce sont les personnages principaux qui seront la plupart après décorés juste parmi les nations. C'est le point de bascule, c'est les enfants, c'est la limite pour eux à ne pas dépasser.
Oui, mais en fait, la chance, entre guillemets, de ces enfants et des personnes qui ont été sauvées, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes dans la région de Lyon qui sont extrêmement réveillées sur ces questions-là, notamment donc des prêtres, mais pas seulement. Ils sont réveillés parce que ce sont des militants, finalement, de cette cause-là. Ils ont déjà vu des précédents. Il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà vu des enfants internés dans le camp de Rivesaltes, par exemple, et qui ont vu les dégâts que ça pouvait causer. Donc il y a une sorte de c'est des gens très, 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 très réveillés, très alertes sur la question. Donc il y a une réaction immédiate et un passage à l'action immédiat d'un certain nombre de personnes. Et le déclenchement, évidemment, c'est le fait que des enfants soient internés. C'est la devise de Joseph Veil, qui était le président d'une association de secours aux réfugiés. Les enfants dehors, c'est comme ça qu'il disait les choses en parlant des enfants dans les camps. Sortir les enfants est la priorité absolue.
Et donc il y a tout un réseau d'aide à ces enfants et pour épargner un maximum de vie qui va se mettre en place. Il y a notamment le chef du service social des étrangers de Vichy, Gilbert le Sage, qui est un personnage très important, il apprend qu'il va y avoir cette rafle massive pour livrer aux nazis des juifs étrangers de la zone libre. En dehors, donc, il va contacter un abbé pour demander de l'aide pour sauver un maximum de gens. Et l'abbé, qui est l'abbé Alexandre Glasberg, explique qu'en fait, d'une certaine façon, c'est l'obsession administrative des nazis qui va les aider.
Oui, parce que Glasberg va il y a un côté cheval de Troie dans cette histoire-là. Il va rentrer dans le camp avec au prétexte qu'il fait partie de l'Amitié chrétienne, qui est une association de charité, pour prêter assistance aux internés. Et en fait, une fois qu'il sera à l'intérieur du camp, il va faire rentrer un maximum de personnes concernées et réveillées pour trouver toutes les failles possibles, et notamment les failles administratives. En fait, notre album, c'était un thriller administratif.
Oui. C'est-à-dire. Mmh.
Ouais. Mais c'est retourner finalement les armes administratives de ce gouvernement de collaboration contre eux.
Oui, parce que toutes ces tracasseries administratives n'ont évidemment aucun sens, et il le sait, donc c'est un labyrinthe destiné, comme il le dit dans l'album, à égarer les esprits et à perdre les gens. Donc lui, il va se faufiler là-dedans, il va chercher la moindre faille, et il va donc trouver cette fameuse faille qui va permettre de libérer, en l'occurrence, les 108 enfants.
Ouais. Donc, les cas d'exemption, ou même ils vont falsifier certains documents.
Oui.
Tout à fait, falsification de documents, tout est bon. Hein. Il y a même une scène qu'on n'a pas mise dans la BD où quelqu'un disparaît dans un coffre de voiture et sort du camp comme ça, de manière un petit peu sauvage. Mais là, pour pouvoir libérer un maximum de personnes, c'est justement sur les failles administratives que Glasberg va jouer.
Ouais, et il y a des gens qui ont pris des risques considérables hein, pour falsifier des actes de naissance, fabriquer des fausses cartes d'identité, subtiliser des tampons dans les mairies, etc. Et vous représentez aussi des entretiens que doivent passer des personnes libérables qui ont été arrêtés pour vérifier si tout est correct avec les documents administratifs. C'est dans un cadre très organisé. Il y a un chef de la police très zélé qui pose les questions, Claude Cornier. Le zèle et la rigueur avec lesquels il va chercher la petite bête pour s'opposer à l'exemption devant la... C'est glaçant. Est-ce que ces entretiens ont été consignés quelque part, que vous avez pu... est-ce que ce sont des documents administratifs officiels, ou bien ce sont des scènes que vous avez imaginées d'après les témoignages des documents historiques ?
Non, ce sont des... Bon, il y a toujours une part d'invention, évidemment, mais globalement, tout est scrupuleusement documenté, parce qu'on a adapté donc, le livre de Valérie Porteret, qui, elle, a archivé tout ça, et a retrouvé tous ces documents administratifs. Donc les commissions de criblage, en l'occurrence, pour savoir qui peut être libéré et qui ne peut pas être libéré, elles ont vraiment eu lieu, c'est bien Cornier qui s'en occupait, et les personnes étaient assistées par l'abbé Glasberg ou quelques autres, qui donc ont vraiment pinaillé sur chaque détail pour donc il y a un côté monstrueux, évidemment, administrativement
monstrueux. Parce que les vies auraient pu être
sauvées, hein, absolument.
Au début, il y a aussi une rencontre entre... Donc, on parlait qu'il y avait des hommes d'église, notamment l'abbé Glasberg, qui sont impliqués. Et une rencontre entre le cardinal Pierre Gerlier et le rabbin Jacob Kaplan. Et on voit qu'en fait, il y a une coopération entre les instances religieuses sur ce thème-là et dans cet objectif-là.
Oui, il y a une dimension œcuménique, évidemment. C'est-à-dire que Kaplan, le rabbin, voit passer un train en gare de Lyon-Perrache avec des déportés, alerte le cardinal Gerlier sur la situation, et Gerlier, au lieu de faire l'autruche, au contraire, tout d'un coup, prend fait et cause et devient un personnage qui est totalement remarquable et un des héros de cette histoire d'héroïsme collectif.
Il y a aussi des travailleurs indochinois dans le camp, et c'est vrai qu'on peut se demander ce qu'ils font là et quel a été leur rôle dans cette histoire.
Ils étaient cantonnés là, et leur rôle dans cette histoire, ce sont simplement des témoins qui auraient pu en rester là, mais il y a eu deux personnages notamment qui ont pris un certain nombre de photographies. Valérie Porteret, elle a retrouvé des photographies d'un des photographes qui s'appelait Ngo Trang Chieu, et elle les a retrouvées assez récemment, dans les années 2000. Et ça, évidemment, absolument bouleversant de voir tout d'un coup cette histoire qu'elle connaissait d'ailleurs très bien, mais tout d'un coup s'incarner sous forme d'image, qu'on a réutilisée d'ailleurs dans la bande dessinée. Il y a des photographies que Olivier Balèze a tramées et a utilisées comme des pages de respiration. Donc ils ont un rôle, en fait, de témoin muet, d'œil, qui voit et qui rapporte finalement le peu de choses qu'on a visuellement sur ce qui s'est passé.
Ouais. Ce sont des héros, hein, tous ces gens, parce qu'ils ont pris des risques, on le disait, inouïs. Vous n'aurez pas les enfants. À l'origine, c'est le titre d'un tract qui a été distribué en réalité dans les rues de Lyon au moment où la police française tentait pour sauver ces 108 enfants exfiltrés du camp de Vénissieux. des récits de collaboration et sur la manière, de façon très méthodologique, dont ça se passait avec l'administration, avec la police. En fait, il y en a pas tant que ça dans l'histoire de la fiction. On connaît des grandes histoires de résistance. On connaît évidemment l'histoire des massacres commis par les nazis. Mais l'histoire de collaboration, on est encore un peu frileux à les explorer. Il y a toujours une honte par rapport à ça, que ce soit en Belgique ou en France. Est-ce que c'est en train de changer ça? Est-ce qu'on ne s'autorise plus facilement à maintenant un peu aller regarder dans son propre passé?
Sans doute, je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon, tout finit par remonter à la surface et tout finit par se savoir, à condition de fournir l'effort nécessaire pour que ces choses apparaissent. Ce qui est passionnant, c'est aussi tout ça, ça se passe de manière effectivement administrative, qui a toute une partie un peu ingrate, comme ça, on n'est pas dans l'héroïsme échevelé d'un personnage unique. Là, en l'occurrence, c'est une histoire d'héroïsme collectif, fait de petites choses, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Donc c'est un peu compliqué aussi à raconter. C'est pour ça qu'on a choisi de faire un récit choral où on a un certain nombre de personnes et on bat en brèche l'idée du héros solitaire pour raconter une histoire d'héroïsme collectif.
Et une histoire finalement très universelle, hein, qu'on peut appliquer à d'autres endroits, à d'autres moments. Merci beaucoup. Arnaud Le Guéflec, vous signez donc cette bande dessinée avec Olivier Ballet. Ça s'appelle « Vous n'aurez pas les enfants » d'après le livre de Valérie Porteret. C'est publié chez Glénat. Merci beaucoup à vous. Dans un instant, on va passer aux bonnes colonnes avec vous, Fiona Collienne. Bonjour.
Bonjour.
De quoi allons-nous parler ce matin?
On va parler soft power américain. Vous savez, soft power, bon, c'est pas la force militaire ou économique, c'est plutôt la réputation d'un pays. Et on peut dire qu'aux États-Unis, ça dégringole.
Ça dégringole. Et ce sera juste après les informations de 9h30 d'Anne-Sophie Brundonx.